J'ai dû réveiller les morts, l'impression de m'élever. Mais en vérité, les dés sont pipés et je passe mon temps.
Radio G 101.5 FM.
Nous sommes le lundi 12 avril 2021, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, du rock, des types en slip, de l'introspection, de la contemplation, des mondes parallèles, de l'amour et beaucoup d'autres choses. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb. L'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro et nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère que nous passerons un bon moment. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission et je m'excuse de vous avoir fait faux bond lors de la dernière. Les temps sont durs pour tout le monde et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Nous sommes de nouveau nombreux à être cloîtrés chez nous et il va falloir trouver de quoi s'occuper. C'est pourquoi je vais vous conseiller des titres essentiels que vous pourrez vous procurer dans vos librairies favorites. J'aurai deux guests pour m'accompagner ce soir qui vous feront découvrir leur coup de cœur. Pour débuter, partons du côté de la jeunesse. Je vous le dis souvent, n'hésitez pas à me conseiller des albums pour que je puisse en parler dans l'émission. Le mieux reste tout de même de me faire parvenir votre douce voix pour être diffusée directement dans l'émission avec vos propres mots. Mais bref, ma belle-sœur suit mes conseils de lecture régulièrement et elle ne se gêne pas pour m'en donner également. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou.
Coucou.
Grâce à elle, je vous parle donc ce soir de Migali. Enfin, je vais plutôt laisser la parole à une lectrice avide qui a boulotté l'album un certain nombre de fois en quelques heures. Voici donc la chronique de ma fille Garance.
Je vais vous parler de Migali, bienvenue à l'Académie Royale, d'Alexandre Arlen et de Fabien Octolambert, des éditions Ozu BD. Ça parle de Migali, princesse araignée, mais pas n'importe quelle araignée, une migale. Qui va aller dans une école où en fait elle va apprendre à devenir une vraie princesse. Bah, elle est pas toute seule, elle a plein d'amis, bah, des princes et des princesses. Ils sont, par exemple, il y en a qui sont des animaux et il y en a qui sont, par exemple, il y a un prince grenouille, il y a la princesse des marais, il y a le prince des ténèbres, il y a la princesse Scarabée, il y a le prince loup et il y a le prince oiseau. Il y a avec des professeurs où ils vont apprendre à faire de la peinture. Enfin, il y a des cours où ils vont apprendre à utiliser leur magie ou à utiliser ce qu'ils savent faire. Ils sont pas tous très sages, mais il y a des personnes qui s'amusent bien, en fait. C'est une histoire. Il y a une histoire avec plein de petites blagues trop drôles. C'est des histoires qui se suivent. J'adore le dessin, il y a beaucoup de couleurs, c'est trop beau. C'est plutôt rigolo, j'ai bien aimé. On comprend trop bien ce qui se passe dans les dessins. C'est très très bien expliqué. Il y a beaucoup de couleurs vives. J'adore ça, ouais, c'est trop bien. C'est rigolo et les blagues, elles sont trop bien. Trop drôle. Je l'ai lu plein de fois parce que j'aime bien. C'est trop drôle et trop bien. C'était Migali, bienvenue à l'Académie Royal, d'Alexandre Arlène et de Fabien Octolambert, des éditions Ozu BD. Il y a un concours où on doit faire un dessin, et si on gagne le concours, on verra nos dessins dans les 5 dessins qu'il y a dans le prochain album.
Si vous souhaitez participer à ce concours, rien de plus simple, il suffit de dessiner un personnage de l'album et de l'envoyer à l'adresse de l'éditeur qui figure dans l'album. Et vous aurez peut-être la chance de voir votre œuvre dans le second tome. C'était Migali d'Alexandre Arlène qui, depuis quelques années, détruit avec un humour noir et sanglant des franchises toutes mignonnes avec un acharnement particulier sur Harry Potter et son acolyte Fabien Octolambert, dont il s'agit, sauf erreur de ma part, de la première BD. Je remercie ma fille, mais je vais lui laisser également à nouveau la parole pour la chronique qui suit.
On va parler de Cher Justice League de Michael Northrop et de Gustavo Duarte des éditions Urban Kids. Je vais commencer par présenter les personnages. On a Superman, on a Wonder Woman, on a Aquaman, on a Batman, on a Cyborg, on a Flash, on a Green Lantern, on a on a Hawkgirl. Et il y a aussi les animaux. On a Hamlet, le hamster de Hawkgirl. On a Purdy, le poisson rouge d'Aquaman. Et Justice, avec Justice, le chevalier de Justice, chasseur de souris en chef du Hall de Justice. Et Jumpa, le kangourou de Wonder Woman. On a des chapitres pour tous les membres de la Justice League, plus un qui va parler de toute la Justice League. C'est plusieurs histoires séparées. Chaque personnage va recevoir une lettre d'un fan et il va y répondre plus ou moins difficilement. Bah, par exemple, ça t'arrive de te tromper, pourquoi tu portes toujours du noir et du vert, si tu pourrais venir à mon anniversaire. C'est pas des questions qu'on pose souvent à des super-héros. Les super-héros, ils y répondent et ils expliquent avec des exemples parfois simples et parfois pas simples. Ah, par exemple, ils expliquent chacun son style. Il y en a qui sont sérieux, il y en a qui sont drôles. Le dessin est très bien dessiné et il y a beaucoup de couleurs vives. Donc j'ai adoré. Ils sont tous très très rigolos. Il y en a un, c'est explosé de rire. L'autre, tu ris un tout petit peu. Par exemple, il y en a un qui est hyper sérieux. J'ai trop bien aimé l'histoire, j'aimerais qu'il y en ait un deuxième, mais je suis sûre que ça va pas se passer. Qu'il y a plein de gags et ils sont tous trop drôles et c'était trop bien. Oui, mais dans cette bande, dans ce livre, ça parle que ils sont tous pas vraiment très très sérieux. J'ai beaucoup aimé le livre. Je tiens à remercier l'auteur qui a fait cette BD parce qu'elle est vraiment très 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 bien.
Cet ouvrage qui a pour mérite de désacraliser des héros souvent bien qualifiés de trop sombres. En réponse à leurs fans, mais en s'adressant aussi directement aux lecteurs, les personnages montrent avec humour des faiblesses plus humaines et les rendent facilement accessibles. À l'heure où le Snyder Cut est sur toutes les bouches, n'hésitez pas à mettre Cher Justice League de Michael Northrop et Gustavo Duarte aux éditions Urban Comics dans les mains de vos chères têtes blondes, ou peu importe la couleur, hein, pour parler avec eux de ces surhommes et femmes et autres qui passent leur temps en slip. Un grand merci à ma fille pour ces deux chroniques. Elle va maintenant pouvoir s'adonner à sa seconde activité favorite après la lecture. Je parle bien entendu de ranger sa chambre. Avant de passer dans le monde des adultes en quittant celui de la jeunesse, je vous propose de faire un premier interlude musical avec une chanson de soutien à la culture. Une chanson qui date un petit peu, c'est une reprise du fabuleux morceau des Berruriers Noirs par le groupe Qui Aime Ça, mais dédié à tous ceux qui font la culture.
Salut à toi l'intermittent, salut au spectacle vivant, salut à toi le comédien, salut à toi le musicien, salut à toi le jongleur, salut à toi le voltigeur, salut à toi le technicien, salut à toi le plasticien, salut à toi le créateur, salut à toi le danseur, salut à toi l'électro, salut à toi le machinot, salut à toi le régisseur, salut à toi le manager, salut à toi la photo, salut à toi le chapiteau, salut à vous les saltimbanques, salut à toi qui est dans ta planque, salut à toi le perchiste, salut à toi percussionniste, salut à toi le cadreur, salut à toi le réalisateur, salut à toi le graphiste, salut à toi marionnettiste, salut à toi et ton assaut, salut à toi qui est au plateau, salut à toi le décorateur, salut à toi le monteur, salut à toi le chorégraphe, salut à toi le scénographe, salut à toi le lighteux, salut à toi l'emploi jeune, salut à toi et ton camtar, salut à toi le RMA, salut à toi le gréviste, salut à toi l'accessoiriste, salut à toi le cinéma, salut à toi le théâtre, salut à toi le RMiste, salut à vous tous les artistes, salut à toi le circassien, salut à tous les baladins, salut à toi le rôdi, salut à toi qui est au catering, salut à toi qui maquille, salut à vous dans toutes les villes, salut à toi à tous les câbles, salut à toi le social, salut à toi le costumier, salut à toi le sondier, salut à toi l'étalonneur, salut à vous 507 heures, salut à toi le mort-vivant, salut aussi à tous les champs, salut à toi metteur en scène, salut à toi le Larsen, salut à vous les employeurs, salut à toi organisateur, salut à vous les cachets, salut à toi indemnité, salut à vous les fiches de paye, salut vos yeux et vos oreilles, salut aussi à tous les groupes, du Pas-de-Calais jusqu'au Languedoc, salut à vous les compagnies, salut à toi qui est verni, salut à vous tous les scripts, salut à toi le comique, salut à vous dans tous les cirques, salut à toi même Monique, salut à vous dans la musique, salut à vous le public.
Morceau de soutien qui fait du bien. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. On est toujours dans la case de Seb et je vais vous proposer un album bien différent de ce qu'on a pu aborder tout à l'heure. Il s'agit de Iris, virgule deux fois, de Anne-Laure Reboul et Naomi Reboul aux éditions Sarbacane. Selon vous, quel est le point commun entre une caissière de chez Leclerc et une autrice lauréate du prix Renaudot? A priori, aucun. Si ce n'est votre vie, si elle avait pris une direction différente. Une vie où un embranchement aurait été pris de façon différente. C'est ce que va expérimenter Iris, une jeune femme dont le dernier roman remporte un succès, semble-t-il, mérité. Iris semble avoir une vie rêvée, succès professionnel et sentimental, une situation personnelle qui ferait envie à beaucoup de monde. Mais voilà, depuis quelque temps, la jeune femme voit ses nuits hantées par une autre vie, une autre Iris. Une Iris caissière de supermarché dont les longues journées de travail moroses suivent des soirées avec son fils autiste et son mari alcoolique. Une vie qui, je n'en doute pas, fait déjà moins rêver. Perturbée par cette autre vie, Iris, l'écrivaine, doute de son succès et se met en question. Et si sa vie réussie ne lui permettait pas de mériter ce qui lui arrive ? Alors, en pleine crise créative, elle surprend cette deuxième version d'elle-même qui commence à écrire. Et si l'inspiration se trouvait là, dans cette autre vie nocturne, dans cette autre vie qui fut un de ses possibles avenirs ? Avec Iris deux fois, les auteurs parlent d'un mal bien connu des créatifs. Pas celui que l'on nomme le syndrome de la page blanche, mais plutôt celui de l'imposteur. Ce syndrome qui fait que malgré le travail, plus que le talent, rien ne semble pouvoir justifier un quelconque succès ou gratification. Un syndrome souvent accentué par un niveau d'exigence ou de perfectibilité poussé dans ses retranchements dans un monde où la compétitivité fait rage et où souvent qualité et succès ne sont pas forcément des synonymes. Graphiquement, l'ouvrage est très agréable à lire. C'est très doux. On a un découpage plutôt fluide et le graphisme est léger avec des touches crayonnées et ce côté crayon de couleur qui donne plus de puissance à ce côté angoisse créative. On ressent bien en fait le travail nécessaire pour accomplir un ouvrage et la complexité de ça. Au-delà de cette thématique, c'est aussi celle des extrêmes. Chacune des Iris, isolée de l'autre, ne peut qu'imaginer cette vie si diamétralement opposée à la sienne. Une vie où misère et manque de respect sont la première face d'une pièce où sur l'autre se trouve une vie rêvée de succès et d'amour. De vie que pour ma part je suis bien loin de souhaiter, préférant un entre-deux, une vie simple et entrecoupée de joie et de tristesse. Un bel ouvrage donc à découvrir, avec un petit twist, mais je vous laisserai vraiment le découvrir, c'est vraiment agréable à lire. Je vous redonne les références, il s'agit d'Iris deux fois, d'Anne-Laure Reboul et Naomi Reboul aux éditions Sarbacane. Pour la chronique qui vient, j'ai une petite histoire à vous raconter. Bon, Anne-Lie a déjà fait une chronique dans l'émission il y a quelques temps. Et l'autre jour, elle est venue me voir, elle me dit « Écoute Seb, je m'ennuie un petit peu, j'ai beaucoup trop de temps libre, j'aimerais bien refaire une chronique dans ton émission. » Je dis « Bah écoute, t'es mignonne Anne-Lie, j'ai déjà plein de matière, je n'ai pas forcément besoin. » Et elle m'a dit « Si, j'insiste, j'ai trouvé un livre, il est super, tu vas voir, faut absolument que je t'en parle. » Bon, écoutez, moi je suis un peu bonne poire, j'ai dit « Écoute, vas-y, je vais te trouver une petite place et puis on va faire le nécessaire. » Eh bien écoutez, je vous laisse découvrir la chronique d'Anne-Lie.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci beaucoup Seb de me laisser le micro pour me permettre de vous présenter une nouvelle bande dessinée. Celle dont je vous parle aujourd'hui est un peu un ovni et elle nous a été envoyée par les éditions Matière. Il s'agit de Visage du temps de Samy Stein. Samy Stein a été à l'école des Beaux-Arts de Paris et pour moi, peu importe de parler d'auteur de bande dessinée, de dessinateur ou d'artiste, mais effectivement, on sent que le monde de l'art, les expositions, résidences, installations, White Cube ou même Artist Run Space, habite Samy Stein et habite les récits de Visage du temps. C'est un artiste donc, mais qui travaille beaucoup le dessin et la forme de l'édition, comme avec cet ouvrage ou d'autres fois des micro-éditions. Visage du temps, ce sont 280 pages de dessins clairs, propres, très maîtrisés, mais pas dénués de sensibilité. Le dessin est fait avec des outils numériques et on plonge dans un univers doucement coloré, rempli de dégradés parfaits, de teintes tantôt vives, tantôt pastels. Et j'ai d'ailleurs été surprise et heureuse d'être touchée par ce dessin qui est avant tout sensible et agréable à regarder, pas du tout froid comme on pourrait le craindre. Visage du temps rassemble 17 récits de longueur variable qui ont été précédemment édités par Samy Stein, souvent à l'occasion d'événements ou de micro-éditions. Je ne me lance pas dans le parcours de ces 17 récits, de leur histoire originelle. Vous en saurez plus en lisant cet ouvrage. En tout cas, Le dialogue qui se crée entre les différents récits nous emmène dans plusieurs univers, et voici quelques-uns des titres. Le musée de la tortue, archives du musée de cristal, visage du temps, multimonde, galerie 128, retour vers le centre, fireworks, moving sculpture, camouflage, etc. Et chacun nous propose, tour à tour, un détour dans des musées imaginaires, de visiter des collections rêvées, un hommage à un artiste oublié, d'observer des processus de transformation ou de découvrir les souvenirs d'un lieu fictif ou parfois des souvenirs d'expériences vécues. Finalement, on ne sait plus trop, car oui, selon les récits, on ne sait plus si on est dans un monde totalement imaginaire ou si on nous raconte quelque chose qui a bien eu lieu. Samistin se sert ainsi de la bande dessinée pour rendre réelles des choses impossibles, et notamment des œuvres ou des expériences artistiques. C'est d'ailleurs toute la force de la fiction, et personnellement ça m'a beaucoup plu. Et quelque part, juste en lisant ces histoires, on donne réalité à ces fantaisies imaginaires. Parfois aussi, on réalise que ce qui nous est raconté fait partie de l'histoire de notre vrai monde, et ce peut être tout à fait surprenant. Je pense notamment à « Salut Marcel », un récit qui évoque la figure de Marcel Bascoulard, artiste berruyer et marginal, qui a marqué sa ville et dont la vie est véritablement incroyable. Sa biographie pourrait être une fiction décalée, mais finalement, tout est vrai. C'est une histoire qui m'a touchée dans « Visage du temps ». On trouve aussi plusieurs récits qui ont à voir avec la création et le monde de l'art, qui est d'ailleurs abordé avec beaucoup d'humour, de décalage, de second degré, mais sans être moqueur. Car oui, c'est aussi un livre très drôle. Et je pense à la carte du grand restaurant, délicieusement absurde. Là où Visage du temps est intéressant, c'est qu'on observe au fur et à mesure de notre lecture comment les différentes natures de temps, d'événements, se tissent. C'est une expérience de voyager dans ces réalités et univers parallèles, franchir à chaque page les limites du réel et de la fiction, mais qui sont quand même proches de nous et qui peuvent nous raconter beaucoup de choses. Vous y trouverez un monde délicatement absurde, mais aussi très ancré dans le réel donc, où la narration invite l'étrange dans nos vies, dans nos imaginaires, et parfois révèle le réel. Et effectivement, à la fin de notre lecture, on a l'impression d'avoir observé plusieurs visages du temps. Alors c'est véritablement un livre dans lequel j'ai plongé, que je serais heureuse de parcourir à nouveau, mais aussi de conseiller et de prêter autour de moi. Je vous redonne les références. « Visages du temps » de Samistin, publié aux éditions Matière. C'est un petit tirage, 1500 exemplaires pour être exact, alors n'hésitez pas à vous le procurer rapidement, on ne sait jamais. D'ailleurs, il doit être à la librairie Myriagone à Angers, ou dans toutes les librairies, ça se commande, et les librairies sont toujours ouvertes. Bonne lecture.
Merci Anne-Lie pour cette chronique. Promis, la prochaine fois, je ne t'enferme pas dans le studio. Je pense que tu as développé un syndrome de Stockholm. Bon, effectivement, si tu as envie d'écrire d'autres chroniques, je suis d'accord, on trouvera un moyen de les caser. Je te remercie. Je vais enchaîner sur la prochaine chronique avec un morceau qui s'appelle... Un morceau. Vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre le lapsus. Un album qui s'appelle Valhalla Hotel, tome 1, Bite the Bullet en anglais, de Pat Perna et Fabien Beduel. Et c'est aux éditions Glénat dans la collection Comics Bureau. Bienvenue dans la charmante ville de Flatstone, une petite bourgade improbable en plein cœur du Nouveau-Mexique. Vous qui venez ici pour la villégiature, vous saurez apprécier la tranquillité de notre paisible communauté d'expatriés allemands. Le commerce florissant est entièrement dédié à l'élevage du cochon. Cet élevage est situé à l'écart de la ville et procure la majeure partie des emplois. Vous apprécierez également le Grand Valhalla Hotel, qui vous procurera toutes les quiétudes nécessaires à vos voyages professionnels. L'intransigeance et l'incorruptibilité du shérif local devraient vous épargner la visite de l'unique cellule de l'agglomération et son actuel résident. Si toutefois vous ne portez pas atteinte aux bonnes mœurs, que le shérif se fait un devoir de respecter. Le soir, vous pourrez vous distraire au bar local en écoutant des musiques traditionnelles bavaroises tout en descendant de grandes pintes de bière tiède. À l'occasion, vous découvrirez les riffs bruyants du marginal local El Loco. Découvrez ce charmant patelin en compagnie de deux voyageurs en route vers les sélections de tennis de table. Le taciturne compétiteur et son dissert coach vont en effet devoir faire un arrêt non prévu dans cette charmante bourgade et ses non moins iconoclastes toutes autochtones. En effet, leur charmante Fiat 500 a décidé de rendre l'âme sur le bord de la route. Rocambolesque, ce semi-road movie rappelle sous certains aspects le fabuleux Il faut flinguer Ramirez. Mais il apporte sa propre touche de fantaisie avec des personnages hauts en couleur. Ce shérif, très conservateur, à cheval sur le règlement jusqu'à l'absurde, sa communauté allemande, qui recèle un bien étrange secret que le coach sera amené à découvrir lorsqu'il partira à la recherche de son protégé, manquant à l'appel au petit matin. Graphiquement, on a là un ouvrage très dynamique, on a de l'action, c'est très rythmé, et peu de temps morts sont laissés, même s'ils sont parfois entrecoupés de discussions où les propos disputent l'absurde des situations. Au final, on a un ouvrage qui, malgré une couverture dynamique mais un peu classique, renferme un petit bijou bien surprenant dont on ne saurait passer à côté. Je vous redonne les références, il s'agit de Valhalla Hotel, tome 1 by the Bullet, de Pat Perna et Fabien Beduel aux éditions Glénat. Je continue dans le son un petit peu fort avec Batman Death Metal aux éditions Urban Comics. Batman Death Metal est de Scott Snyder et Greg Capullo. C'est la suite de l'arc initié dans Batman Metal, mais pas que. Alors, suite au combat contre Perpetua, une entité toute puissante ayant créé les multivers pour absorber tous les autres multivers, voilà, une petite fringale quoi, les héros ont été défaits. Et le sort du monde repose désormais entre les doigts acérés de celui qui, issu du Dark Multiverse, a été découvert dans Batman Metal, le vilain Batman qui rit. De nombreux héros, issus ou non d'autres réalités ou de celles-ci, sont désormais asservis sous sa coupe. Par exemple, Diana Prince, plus connue sous le nom de Wonder Woman, endosse le rôle de Cerbère des Enfers pour protéger ceux qu'elle aime. Mais dans l'ombre, la résistance s'organise. Wonder Woman, de son côté, a ourdi un plan et un individu se dresse encore et toujours contre la domination du Batman qui rit. Cet individu élabore des plans pour le destituer et restaurer notre univers. Mais tout est loin d'être aussi facile pour Batman. En effet, dans cette partie d'échec, le Batman qui rit sait s'entourer et connaît extrêmement bien le Dark Knight, anticipant ses mouvements de plusieurs coups d'avance. Batman Death Metal est selon moi beaucoup plus digeste que Batman Metal car beaucoup plus fun. Et il est moins nécessaire de connaître l'univers du Justicier de Gotham ou l'univers DC pour pouvoir en profiter. Même si, ne nous le cachons pas, être un lecteur depuis de nombreuses années ne pourra que décupler votre plaisir. Et le plaisir provient surtout du côté fun et parfois méta qui résulte de cette situation. Les compagnons du Batman qui rit sont toutes des versions alternatives du Chevalier Noir ou d'autres personnages connus, que ce soit de la Justice League ou de l'univers DC. Si certains sont globalement très classe, d'autres sont plus loufoques. Par exemple, le Batman T-Rex, qui semble tout droit sorti d'un brainstorming complètement fucké sous acide. Graphiquement, le tout est très travaillé, on sent que les auteurs se sont fait plaisir. Parce que au niveau côté design des personnages, encore une fois, les versions alternatives des héros et antagonistes sont super fun et on sent qu'ils ont lâché la bride. La mise en page est efficace et certaines splash pages récapitulatives sont d'une lisibilité limpide. On nous fait des résumés sur certaines pages de l'histoire de certains personnages ou des histoires passées et c'est globalement très clair. D'un simple coup d'œil, sur une double page, on a 4 ou 5 volumes de scénarios qui nous sont passés sous le nez. Mais aussi avec un scénario qui regorge de références et autres clins d'œil, sans manquer de rebondissements ni de fanservice. Peu avant la fin de l'ouvrage, on découvre plusieurs chapitres dédiés à ces versions alternatives et leurs créations, souvent absurdes mais parfois très flippantes. Mais elles ont toutes une sorte de logique tordue. C'est des mini-histoires qui sont pour la plupart très satisfaisantes de par leur originalité et leur traitement. À y réfléchir, on se retrouverait presque dans un segment des What If, cher à la Maison des Idées. À noter qu'une édition spéciale existe pour cet album et tous ceux de la série Batman Death Metal, et ils ont été confiés à différents artistes. Ils arborent une couverture alternative dédiée à un groupe de métal. La musique est un voyant, pas la ferraille, pour un total de 7 albums. Un ouvrage à réserver bien sûr aux fans de Batman, mais également aux connaisseurs de l'univers DC, puisque les lecteurs occasionnels risquent bien de s'y perdre. Je redonne les références. Batman Death Metal, c'est aux éditions Urban Comics. C'est de Scott Snyder et Greg Capullo. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avec un morceau puissant joué par un des protagonistes de Valhalla Hotel. Il s'agit de Motorhead avec le mythique Ace of Spades. Motorhead, avouez que ça fait du bien, hein. Vous êtes de retour sur le 101.5 de la case de Seb sur Radio G et nous partons au pays du soleil levant. La chronique qui vient, ça va être une chronique manga qui va être double, puisque je parlerai ici de la version manga et de la version animée de la même œuvre. Il s'agit de Burn the Witch. Mais qu'est-ce donc ? Ce manga est la dernière œuvre de Tite Kubo, l'auteur du manga à succès Bleach. Le manga en version papier vient de sortir aux éditions Glénat et l'anime est disponible sur la plateforme Crunchyroll. Ce qui, au départ, n'était qu'un simple chapitre divertissant dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump, le célèbre magazine de prépublication japonais, est à présent un manga dont le premier tome est sorti fin 2020 au Japon. L'adaptation en anime existe en 3 épisodes, a été faite en 2019, je crois. J'ai oublié de mettre la date, excusez-moi. Mais commençons tout d'abord par l'histoire. Dans un monde qui ressemble au nôtre, les dragons sont des créatures à la fois dangereuses et présentes en nombre conséquent. Comprenez par là que les dragons dont je parle ne sont pas des monstres écailleux des légendes arthuriennes, mais plutôt des créatures fantastiques pouvant prendre nombreuses formes, comme de simples plantes en pot vivantes, ou des créatures gigantesques proches des sauriens de la saga de Tolkien. Bref, ces dragons, invisibles pour le commun des mortels, sont présents dans notre monde, et seuls certains s'en prennent aux humains. Si un humain est touché, il diffuse ses émotions négatives vers le dragon, qui devient alors une menace pour les populations. L'humain ayant été en contact devient également souillé et sera mis à mort. Pour veiller à ce que l'humanité ne se fasse pas exterminer par ces créatures, une société a été créée qui emploie des sorcières afin d'agir dès que le besoin s'en fait sentir. Ces sorcières résident dans une ville à l'envers, sorte de reflet dans l'eau magique de notre réalité, nommée Versolondres. Oui, puisque l'action se déroule à Londres. Nous y suivons la vie quotidienne de Noël et Lily, deux sorcières membres du corps des Pipers, une unité chargée des récoltes et élevages, puisque les dragons sont capables de créer des ressources que nous pouvons utiliser, et les personnes doivent être habilitées et prendre leurs précautions pour pouvoir récolter ces ressources. Et ces deux jeunes femmes ont une double vie, une vie dans Londres et une vie dans Versolondres. Lily est une idole d'un groupe très populaire, elle participe à des pubs et plutôt fortunée, et Noël est une simple lycéenne. Lors d'une mission, Noël va découvrir qu'un jeune garçon un peu pervers, qui la harcèle, côtoie en fait depuis bien longtemps un dragon dissimulé. Elle va devoir, dans un premier temps, oxyre ce dragon et régler l'histoire du jeune homme. Ce contact prolongé étant synonyme de condamnation à mort, je l'ai déjà dit. Elle va se rendre compte que ce jeune garçon a un niveau de souillure beaucoup plus élevé que celui habituellement relevé. Effectivement, le contact très très long avec ce dragon a souillé le jeune homme de manière radicale, au-delà des limites acceptées. Les fans de Tite Kubo reconnaîtront avec un plaisir le style graphique si particulier du mangaka. En effet, même si un travail de chara-design est très distinct sur chacun des personnages, les habitués de l'auteur ne pourront reconnaître certains petits détails et ne pourront pas non plus s'empêcher de trouver des ressemblances avec les personnages de Bleach. De même, l'organisation de Versolondres ressemblera en de nombreux points à l'organisation de la Soul Society de Bleach, avec ses brigades, ses chefs de brigade, ses escouades. L'univers y est plutôt bien décrit et on retrouve une nouvelle fois la dualité du monde déjà présente dans Bleach, le monde des esprits versus le monde matériel. Notre monde plutôt serein et rationnel, avec parfois certaines incursions du fantastique, et le Versolondres dont le fantastique est le quotidien qui va parfois devoir faire avec des éléments inadaptés à la magie, comme le jeune garçon dont on parlait plus tôt. L'histoire s'est gardée un bon rythme et propose de petites surprises et trouvailles scénaristiques très intéressantes. Le style de Tite Kubo est toujours très agréable et les scènes d'action sont toutes facilement lisibles. Son usage des masses de noir renforce le côté fin de son trait et c'est vraiment très agréable. La version animée en 3 épisodes disponible sur Crunchyroll est très, certains diront trop, fidèle à son itération papier. En effet, la trame est quasi identique à quelques adaptations près, mais il faut dire que le découpage d'origine est déjà très efficace et proche d'un synopsis. Le studio Colorido a fait un bon travail pour la mise en couleur et les motifs tartans prennent une valeur plus importante. Le travail sur certains effets visuels est également plus efficace dans la version animée que dans la version papier, puisque certains effets de la version papier passaient d'une case où on voit rien à une case où on voit quelque chose. Là, il y a une espèce de transition qui se fait, mais qui n'aurait pas pu se faire en version papier et qui marche bien. Si vous souhaitez découvrir Burn the Witch, n'ayez pas peur de lire ou voir l'animé. Devant le succès, une suite animée a été commandée et donc probablement un second tome, ce qui vous laisse bien entendu le choix sur la version que vous souhaiterez suivre. Je redonne les références. Burn the Witch de Tite Kubo, c'est aux éditions Glénat et disponible en VOD sur la plateforme Crunchyroll. Je continue dans un monde d'Heroic Fantasy avec ReZero Chronicles aux éditions Ototo. L'histoire est de Tapei Nagatsuki, le dessin est de Tsubata Nozaki et un chara-design de Shinichiro Otsuka. ReZero Chronicle, la balade amoureuse de la lame démoniaque, est un spin-off de l'isekai à succès ReZero. Ce spin-off nous fait découvrir une histoire ancienne du monde de Re:Zero et les origines d'un des personnages de la saga. Si je ne me trompe pas, c'est un personnage qu'on découvre dans le troisième arc de la saga. Bien des années avant l'arrivée du héros de la série principale, une guerre faisait rage. Une guerre sanglante opposant les humains aux semi-humains. Pendant ces conflits, un jeune homme va se distinguer par sa violence et son habileté avec une épée. Son talent et sa virtuosité lui permettront d'obtenir le surnom de l'âme démoniaque. Ses hauts faits lui feront intégrer une escouade d'élite qui partira en mission de protection en plein territoire hostile. Lors de cette mission, le jeune homme va faire une rencontre qui changera la perception qu'il a du monde ainsi que son destin. Alors de prime abord, le héros, Willem Trias, ne semble pas vraiment un personnage agréable. Il est arrogant, taciturne et sourit rarement. C'est surtout au contact d'autres personnages qu'il va prendre une consistance et se développer. Avouez que cela semble plus simple de faire avoir des sentiments à un personnage qui en semble dénué au premier regard. Mais les personnages secondaires vont y remédier. Entre le capitaine d'escouade un poil trop spontané et toujours jovial, un camarade hanté par les horreurs de la guerre et complètement pétrifié de peur sur un champ de bataille, une magicienne arrogante et sa compagne bretteuse hors pair et presque aussi froide que Willem, l'équilibre émotionnel se crée, chaque émotion provenant d'un protagoniste différent. L'histoire est plutôt agréable à lire, même pour une personne ignorante du monde de Re:Zero. Le conflit est expliqué sans pour autant devoir entrer dans les détails géopolitiques, et les aspects magiques sont expliqués également sans excès. Mais juste ce qu'il faut, hein, quand même, pour qu'on comprenne. Graphiquement, l'ouvrage est plutôt propre, le trait est fin, et l'auteur utilise de manière assez agréable des masses de noir, notamment sur le personnage de Willem. Les personnages sont facilement reconnaissables et ont chacun un chara-design sympathique, même s'ils ont tous une légère impression de déjà-vu. Si vous êtes habitué d'Heroic Fantasy ou habitué de RPG par exemple, certains designs des personnages sont suffisamment évocateurs pour que vous sachiez à peu près sa fonction. Les scènes de combat sont globalement lisibles et dynamiques sans avoir besoin de relire plusieurs fois la même case pour comprendre l'action. Ça, c'est quand même plutôt bien. Le seul bémol concerne une probable coquille de traduction, mais là on va dire que je chipote un peu. En effet, sur la jaquette de la couverture, il s'agit de la balade amoureuse de la lame démoniaque, alors que l'intérieur parle d'une balade romantique de la lame démoniaque. Rien de grave en somme, mais ça aurait sans doute pu être corrigé sur une relecture. Alors, à moins que ce soit fait exprès, mais du coup j'ai pas compris pourquoi. Si vous êtes fan de la série d'origine ou tout simplement curieux d'un point d'entrée dans l'univers Re:Zero, Re:Zero Chronicles est fait pour vous. Je vous redonne les références, il s'agit de Re:Zero Chronicles, la balade amoureuse ou romantique de la lame démoniaque. C'est dessiné par Tsubata Nozaki, c'est écrit par Tapei Nagatsuki et c'est un chara-design de Shinichiro Otsuka et c'est publié aux éditions Ototo. Je vous propose de refaire une pause musicale avec un groupe de power metal féminin japonais. Il s'agit de Love Bites avec Winds of Transylvania.
Radio G 101.5 FM.
Elle dépote, hein. Moi, je sais pas vous, mais elles m'ont mis une pêche d'enfer. Le morceau, c'est le second opening de la série d'animation Vlad Love. Allez, on continue sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Je vous emmène régulièrement dans les contrées du jeu de rôle. Eh bien, je continue avec Partisan, publié aux éditions Les Douze Singes. Un jeu de rôle assez original et qui a un point d'entrée dans notre thématique bande dessinée. Et si les enjeux de la Seconde Guerre mondiale étaient bien plus importants que la sauvegarde primordiale des libertés ? Un conflit qui se superpose à celui déjà bien violent de la lutte de l'Axe contre les Alliés. Une lutte aux enjeux cosmiques allant bien au-delà des concepts du seul bien contre le mal. Un combat entre deux entités positionnant et déplaçant leurs pions parmi l'échiquier de cette guerre absurde. Cette uchronie super-héroïque prend comme point de départ l'explosion de Tunguska, une explosion déchirant même le tissu de notre réalité et créant des poches de réalité alternative, menaçant à tout moment de prendre le dessus sur notre temporalité. Ces bombes uchroniques se situent à des instants clés de notre histoire, pouvant faire basculer les événements qui en découlent de manière bien différente. Parlons donc à présent de comics, mais de comics à la française avec les Partisans. Si ce nom vous évoque quelque chose, c'est que vous avez sûrement connu les comics dans votre jeunesse en France. Les éditions Zembla, par exemple, ou des personnages comme Barou ne vous sont donc pas inconnus. Eh bien, l'univers de Partisan reprend tous ces super-héros à la française et les intègre dans un jeu de rôle. Le jeu de rôle dont je parle actuellement est un spin-off, stand-alone, je ne sais pas comment le dire. C'est à la fois une extension et un jeu indépendant du jeu Hexagone Univers. Ce jeu va mettre le joueur aux commandes d'un super-héros, un partisan. Les partisans, c'est une équipe super-héroïque, mais pas au sens des Avengers ou de la Justice League. Ces partisans sont plutôt des super-héros qui, parfois, devront unir leurs forces dans un but commun. Lorsque cela arrive, ils sont connus sous le nom des partisans. À l'inverse des deux autres groupes cités plus haut, il n'y a pas de lien formel qui les relie. C'est simplement des missions ponctuelles ou au plus long cours qui font qu'ils vont être obligés de travailler ensemble. Bon, il arrive tout de même que des liens plus sentimentaux se créent, mais ce n'est pas le sujet. Mais alors, où agissent ces super-héros ? Partout dans le monde, mais le plus intéressant est sans doute le camp. En effet, ces personnages vont arpenter les plus grands champs de bataille. L'action prend place en pleine Seconde Guerre mondiale. Et ces partisans, des êtres aux capacités surhumaines, prendront part à de nombreuses batailles pour aider à influer le cours de la guerre. Du côté de l'Axe, elles ne sont pas en reste et certaines expériences viseront à créer des surhumains dans leur camp, et de l'Allemagne et de ses alliés, pour pouvoir lutter contre ces super-héros également. Les joueurs, vous l'avez compris, seront donc ici des super-héros qui, s'ils pourront influer les résultats des affrontements, ne peuvent hélas infléchir le cours de l'histoire. Ils devront même empêcher ces fameuses bulles chroniques dont je parlais plus tôt d'exploser et d'interrompre le cours de l'histoire tel que nous la connaissons, enfin tel que l'univers de Partisan la connaît, puisque c'est un univers légèrement différent du nôtre. Partisan utilise un système de jeu simple pour émuler des super-héros sans pour autant virer gros bilisme. Chaque pouvoir sera nivelé pour ne lui attribuer que certaines utilisations et usages. La gamme compte actuellement trois ouvrages. Si le livre de base est suffisant pour jouer, il existe une campagne nommée Six Emperor Metropolis qui pourra mettre le joueur et équipe de joueurs face à une menace bien dissimulée dans l'ombre des forces en présence. Le troisième ouvrage est plutôt une compilation de savoirs occultes et d'informations qui, même s'il est très agréable, ne concerne pas vraiment la BD ni les ouvrages, mais ça pourra quand même vous faire plaisir. Partisan, c'est une bonne découverte. Si vous connaissez les univers de comics français, ça va vous plaire. Si vous êtes fan de la Seconde Guerre mondiale et de ses différents conflits, l'ouvrage va savoir vous satisfaire, puisqu'il y a pas mal de récapitulatifs de batailles, mais également des embranchements qui peuvent vous dire, si la bataille s'était déroulée différemment, ça se serait passé différemment. L'ouvrage Et franchement très sympa, c'est un petit volume, petit format qui est très qui est abondamment illustré avec des dessins des comics partisans, et c'est vraiment agréable. Donc si l'envie de jouer des super-humains vous branche et que vous êtes fan de la Seconde Guerre mondiale, bah Partisans c'est fait pour vous. Si vous êtes juste curieux, bah Partisans c'est vraiment sympa, n'hésitez pas à y aller. Je redonne les références. Partisans, c'est un jeu de rôle et c'est publié aux éditions Les 12 Singes. That's all, folks. Vous venez d'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Vous pourrez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb, si vous n'êtes pas déjà en train de l'écouter. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'essaie d'être beaucoup plus actif, même si c'est pas vraiment ma tasse de thé. Si vous me postez des petits messages, je vous répondrai avec un grand plaisir. Comme dit plus haut, si vous avez envie vous aussi de participer à l'aventure La Case de Seb, n'hésitez pas à m'envoyer vos textes, vos chroniques, à vous enregistrer avec votre téléphone, et puis vous m'envoyez tout ça pour que vous puissiez être diffusé dans l'émission, ou même si simplement vous avez juste envie de me conseiller une BD à chroniquer, et ben n'hésitez pas, ça se passe dans les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles lectures. En attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi. toujours là, toi? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Radio G. 101.5 FM.
Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde?
Non, non, c'est...
Le gros bazar.